Carnet de campagne, bonjour. La dernière étape dans le Pas-de-Calais avec une bonne nouvelle. Tiens, encore une. Si vous habitez la commune d'agglomération de Béthune-Bruay, le nom complet est Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, qui est la plus grande du département avec 100 communes, 280 000 habitants, un club des entrepreneurs de l'ESS a pris place au cœur de cette communauté depuis 3 ans afin de guider les personnes qui désirent créer une entreprise relevant de l'économie sociale et solidaire. Souvent, les prétendants se retrouvent seuls à avancer en souffrant d'un manque de moyens, d'un déficit de conseils et d'expérience à partager. Et face à ces difficultés, le club apporte son soutien et son réseau d'adhérents composé entre autres d'un atelier chantier d'insertion, chemin vers l'emploi à Isberg, du garage solidaire de Béthune, d'une coopérative d'activité d'emploi de l'agglo, et puis encore de la maison des échanges Bruay La Bussière. Selon Gino et sa compagnie Micro-Méga, entre parenthèses compagnie de marionnettes qui fait partie du club, ce club propage une belle dynamique dans le territoire et un bel élan de travail à suivre donc. Club des ESS entrepreneurs, vous allez avoir un lien à nos pages d'émission. Au programme de ce vendredi, une expérience très originale menée au lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys grâce à Frédéric Libert, professeur de mathématiques et joueur de backgammon. Je vous conseille de lire à ce sujet l'article que notre confrère Laurent Gibowski lui consacre dans les pages numériques de La Vie. Et puis un jardin de fleurs et de légumes en plein cœur d'une cité. À 2 pas de l'université de Béthune se niche en effet le petit paradis végétal de Jean Dubois, second invité.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Frédéric Libert, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Frédéric, merci pour votre courrier. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys et vous êtes aussi membre de la Fédération française de backgammon. Donc vous pratiquez ce jeu qui est assez particulier mais qui d'abord pour un professeur de mathématiques comme vous est un bon support pédagogique.
Alors oui, j'ai découvert ce jeu il y a quelques années, je me suis vite passionné et j'ai voulu partager ma passion très vite avec mes élèves en intégrant ce jeu dans le cadre des cours de mathématiques.
Ouais, alors vous avez commencé avec une classe de seconde, vous l'étendez maintenant aux premières terminales sur 2 années scolaires. Parce que vous avez un projet très ambitieux et vous êtes entré en relation avec le numéro 1 mondial du backgammon qui s'appelle Masayuki Mochizuki, que l'on appelle aussi Mochi.
C'est ça.
Et il vous a dit, votre idée est géniale, moi je suis prêt à vous accueillir au Japon, mais préparez un tout petit peu votre parcours. Et vous le faites entre autres en faisant entrer vos élèves avec vos homologues à Tokyo. J'oubliais le nom de l'école, mais vous allez nous le dire.
Alors c'est le lycée Asabu de Tokyo. Et en fait le numéro 1 mondial, Mochi, donc entraîne un groupe d'élèves. On peut pas rêver de meilleurs entraîneurs, vous imaginez bien.
Oui.
Et en fait, ces élèves vont être mis en relation avec nos élèves du lycée Vauban pour déjà faire connaissance avant cette rencontre qui aura lieu en février 2020. Alors de notre côté, nous préparons le projet avec les élèves. Cette classe de première S, qui deviendra une classe de terminale S l'année prochaine, a 2 heures de plus dans son emploi du temps. 1 heure consacrée à la pratique du backgammon. Et 1 heure consacrée à la préparation elle-même du voyage.
Mmh.
Et l'originalité de ce projet, outre le fait d'être sur 2 années scolaires, ce qui n'est pas très courant, c'est aussi que ce sont les élèves qui construisent eux-mêmes leur projet de voyage.
Mmh.
Certains organisent la communication autour du projet, d'autres imaginent, mettent en œuvre des actions de financement, d'autres élaborent le programme de la semaine à Tokyo. Et en fait, on espérait voir fleurir un certain nombre de choses chez nos élèves, comme par exemple du travail en équipe, de la prise d'initiative, etc. Et pour l'instant, même si ce projet n'a que 4 mois d'existence avec les élèves, ça dépasse nos espérances.
Mmh.
C'est-à-dire que quand on leur en donne l'occasion, ils sont efficaces, dynamiques, dans des propositions permanentes d'action, d'idées. Le travail en équipe est vraiment formidable.
Oui.
Et ça fait plaisir de voir toutes les idées se développer de cette manière-là.
Ouais. Et techniquement, ça prend une belle envergure parce que vous avez été rejoint par une professeure d'histoire géo et une professeure de SVT. Et lors du séjour au Japon en 2020, vous et vos élèves vont aborder ces thèmes sur le terrain. En SVT, c'est par exemple, il y a une partie du programme sur la génétique et le cancer qui sont étudier à l'égard de la longévité des Japonais et à l'égard de leur mode de vie.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que ce ne soit pas, entre guillemets, qu'un voyage scolaire, mais que ce projet constitue une espèce de fil rouge pendant ces deux années scolaires. Et donc, par exemple, en SVT, oui, effectivement, vous parlez de ce thème de la génétique, en parlant de l'île d'Okinawa, qui comporte, je pense, le record mondial de centenaires. Dès que la partie asiatique des programmes d'histoire et de géographie seront abordés, le prisme du Japon sera celui qui sera le plus utilisé.
Alors, si j'ai bien compris, les élèves participent au financement du projet ?
Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, la classe qui nous a été donnée en responsabilité n'est pas du tout une classe profilée. Et donc, notre challenge, c'est d'emmener tous les élèves sans qu'il y ait aucune distinction entre les parents qui, disons-le simplement, auraient les moyens et les parents qui l'auraient beaucoup moins. Mmh. D'où un travail important sur des recherches de financement pour que la part des familles soit réduite au minimum.
Mmh. En fait, vous allez faire exploser par cette démarche les résultats au bac ?
Écoutez, nous avons déjà de très très bons résultats au lycée Vauban. Nous sommes un lycée qui réussit très bien, mais on espère en tout cas que les élèves vont passer le bac dans des conditions de mieux-être encore, enfin, après avoir participé à ce projet de deux années.
Ah oui, ça j'imagine. Quelle expérience, c'est pas banal, à la découverte du Japon entre backgammon et culture, avec le lycée Vauban d'Air-sur-la-Lys et avec Frédéric et ses confrères, ou consoeurs, qui participent à cet énorme projet. Il y a une page Facebook en cours de réalisation, et dès que nous l'avons, évidemment, on la met en ligne pour avoir plus d'informations et suivre cette aventure. Merci Frédéric.
Merci à vous Philippe Bertrand.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Parmi les opérateurs solidaires, plutôt nombreux dans le département du Pas-de-Calais, je remarque le travail réalisé par deux structures de la région d'Audric. Nous sommes aux limites nord du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, au profit d'un avenir alimentaire durable. Terre d'Opale, producteur et diffuseur de produits biologiques, et les Anges Gardins, association d'insertion par l'activité maraîchère. La conjugaison des deux a donné naissance à un pôle de coopération économique sous forme d'éco-pôle alimentaire. Les Anges Gardins, pour parler d'eux, transmettent à toute personne intéressée des connaissances et des pratiques en matière d'autoproduction vivrière et culinaire, par exemple sous la forme de manuels du cuisinier, du jardinier, des formations d'ambassadeurs du jardinage et du bien-vivre alimentaire, et elles organisent aussi des ateliers ils organisent, les Anges Gardins, des ateliers de consommation responsable. L'activité principale dépend toutefois de son atelier d'insertion pour les personnes sans emploi autour du maraîchage, du conditionnement et de la livraison des fruits et légumes à destination des particuliers ou des professionnels de la restauration. À ce sujet, les Anges Gardins lancent un réseau de parrainage afin d'aider les demandeurs d'emploi dans leur démarche d'insertion professionnelle. Les parrains et marraines peuvent faire découvrir leur activité à leur filleul, lui faciliter des visites d'entreprise par exemple, et lui apporter aussi un appui technique. Le site, c'est horizonalimentaire.fr/angegardin. C'est pareil, ça apparaît à notre page d'émission sur franceinter.fr ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Jean Dubois, bonjour.
Bonjour Philippe.
Jean, vous avez été dénoncé, je peux le dire, par Geoffrey Dérault, et vous allez nous expliquer quel apport Geoffrey a fait auprès de votre travail, vous, artisan du végétal, de père en fils. C'est votre papa qui a commencé horticulteur à Béthune en 1958. Qu'est-ce qui s'est passé avec Geoffrey ?
En fait, c'était une belle rencontre. Il y a à peu près un an, Geoffrey avait fait sa commande de produits au court-circuit. Il était venu chercher sa commande et puis on s'est rencontrés. Il a discuté avec un producteur qui était là pendant une heure et demie. Et puis, au moment de fermer, il arrive un moment où on dit, tiens, il y a encore quelqu'un sur le parking en train de discuter avec le producteur. Je me suis approché, on a échangé deux mots. Et en fait, deux mots ont duré à nouveau une heure et demie. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait des parcours qui étaient complètement opposés, qui n'avaient rien à voir. Geoffrey est beaucoup plus jeune que moi, une ingénieure de formation, et qu'il avait marre de son boulot d'industrie. Vous savez, ces gens dont on parle tout le temps à la radio, là, des gens qui veulent changer de vie, et dont on ne les voit jamais, et qu'il voulait être acteur du local. Mmh. Et puis, acteur du local, c'est un peu l'impression qu'on a de ce qu'on fait. On s'est dit, finalement, peut-être qu'on peut discuter. On s'est revus, on a mangé ensemble, on a passé du temps. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on pouvait monter quelque chose de plus ambitieux en se mettant à trois, donc avec Sonia, mon épouse. Mmh. et de devenir une forme sociétaire coopérative, donc la SCOP, pour pouvoir développer les projets qu'on avait un peu tous initiés, mais qu'on n'arrivait pas à mener qu'à deux.
Oui. Alors votre SCOP est assez particulière, parce que donc il y a des serres qu'il est difficile d'entreapercevoir lorsque l'on s'approche de chez vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes en plein centre-ville de Béthune.
Oui, c'est ça. Oui, on est complètement noyé dans la ville. Mes parents s'étaient installés en périphérie de la ville et la ville a grossi autour. L'université s'est implantée de l'autre côté et on s'est trouvé en 50 ans noyé complètement au cœur de la ville.
Mmh. Lorsque vous reprenez l'exploitation familiale, oui, l'horticulture de votre père avec Sonia en 97, vous commencez à produire, mais il y a un changement puisque vous allez vers une culture bio et vous passez en culture naturelle. Cela signifie quoi ?
C'est-à-dire qu'en 2001, on est passé en lutte intégrée, vous savez, le système de transition. Et puis sur 3 ans, au bout de 3 ans de transition, la personne qui nous accompagnait a changé de poste, elle est partie au loin. On s'est dit, on arrête tout, on passe à une version naturelle. Le label bio ne labellisait pas les fleurs à l'époque. On les a approchés, ils nous ont dit « Ben non, les fleurs, vous comprenez, ça se mange pas, on labellise pas.
Oui. »
Donc on est resté en marge de du label pendant quelques années.
Et je vous reprends, Jean. Les fleurs, ça se mange pas. Il y a de plus en plus de plantes qui sont utilisées, de fleurs, dans la gastronomie.
Je sais bien. Les nôtres se mangent. On a une partie de notre production qui est consommée. Mais à l'époque, la demande n'était pas à ça non plus. On a fait cette démarche pour nous. Et puis, ben, on s'est dit, ben, on peut la valoriser, entre guillemets, cette démarche en devenant bio. Ça l'est depuis 2 ans. On est labellisé bio pour l'ensemble de notre production propre et pour le plan de légumes. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc, on est resté un petit peu en marge, entre guillemets, pendant quelques années.
Mmh. Vous êtes tout proche du quartier de l'université. D'ailleurs, vous êtes 244 rue de l'université. Les étudiants sont sensibles à votre démarche ?
Pas beaucoup. On a quelques étudiants, notamment d'université, des niveaux assez élevés d'études qui font leurs courses en circuit court. Ça, on en a quelques-uns.
Mmh.
Mais c'est nouveau. Je pense que c'est pas encore... Ça va venir.
Et vous avez un souci, vous êtes non seulement producteur alors de fleurs et de légumes bio, mais vous avez un souci, c'est de transmettre le geste.
Oui, parce qu'une bonne partie de notre développement se fait autour de la pédagogie. On accueille des scolaires avec une association qui s'appelle le Savoir Vert, qui permet d'accueillir les scolaires de la maternelle au lycée, et qui permet donc à une deux classes de venir visiter l'établissement, de découvrir le métier, de pratiquer un geste technique, un semis, un bouturage, et de comprendre ce que c'est un petit peu que le monde du végétal.
Mmh. Et par rapport à Jean, votre père, vous voyez aujourd'hui une modification des comportements ?
Oui, vraiment. Alors, on a vu 2 grandes évolutions. La première, c'était assez étonnant de voir que les gens ne comprenaient plus le végétal. Et puis maintenant, on voit vraiment la génération des trentenaires qui arrive et qui a envie de retoucher des légumes, alors que les baby-boomers et la génération qui ont suivi sont vraiment des gens qui avaient un dégoût du jardin et du potager parce que c'était une contrainte. Donc ça, on voit vraiment cette évolution-là. C'est pour ça qu'on fait du plan de légumes.
Exactement. À Béthune, rue de l'université, on a parlé du circuitcourt.fr, ça on l'a déjà présenté à l'antenne.
Le court-circuit.
Ouais, qui est la plateforme de consommation locale et équitable que l'on a présenté il y a quelques jours. Et puis le site de Jean pour cette première SCOP à vocation agricole et environnementale du Nord-Pas-de-Calais, je tiens à le souligner, c'est j-dubois.fr. Merci Jean.
Merci beaucoup.
Avant de rejoindre le jeu, quelques informations pour la semaine prochaine. Nous serons dans le Nord, une semaine un peu spéciale, puisque les carnets auront lieu du lundi au jeudi, le vendredi, émission exceptionnelle du jeu, en direct des studios de France Inter, à l'occasion, donc de 12h30 à 13h, à l'occasion du 46e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Fin janvier, nous serons dans Lyon, avant de traverser la Nièvre, le Cher, la Manche et l'Orne. Et alors, bonne nouvelle pour nos amis des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, nous serons du côté de chez vous, début mars, Bouches-du-Rhône et Vaucluse. Merci à Anne Yoro qui réalise les carnets, à Joël Levert qui leur apporte du contenu, aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnent du volume comme Nicolas Delmas aujourd'hui.